La série sur la préparation numéro 3. Le juge prophète. Dimanche 14 février 1999. Brian Kozurek. Mercredi soir, nous avions de nouveau étudié le message, la préparation, que frère Branham a prêché en 1953. Maintenant, avec ceci, nous avons commencé à voir la fonction d'un prophète et nous avons commencé à voir la souveraineté de Dieu et là l'implication directe de Dieu dans la confirmation de ses prophètes. Deutéronome 18h15 L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Maintenant, ce n'est-ce pas en quelque sorte de prendre ou de laisser la proposition que Dieu dit ici. Dieu leur dit à travers Moïse qu'il viendra un prophète comme Moïse et les gens devaient croire et bien prêter attention à ce qu'il doit leur dire. Il dit que vous ferez mieux d'écouter ce prophète et ce mot écouter. C'est le mot hébreu. Shama, Shoma, et il signifie, un, entendre, écouter, obéir et prêter toute son attention. Alors, que déduisons-nous? Quand nous disons que vous devez prêter attention à quelque chose? De toutes les façons, que signifie faire attention? Ça veut dire prêter attentivement attention, être bien attentif à. Et il y a une récompense qui est attachée à ce mot. Quelqu'un peut-il me dire la récompense qui est attachée à ce mot? La réponse est votre protection. Maintenant, pourquoi supposez-vous que le Seigneur a demandé aux gens de prêter attention à ce que ce prophète leur dit? Nous trouvons la réponse au verset 18. Au verset 18, nous lisons, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » 19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est à moi qui lui en demanderai compte. En d'autres termes, lorsque j'envoie ce prophète, il vient pour amener les gens à faire un choix. Ils seront mis à l'épreuve, et ils doivent prendre une décision. En d'autres termes, ils vont devoir juger s'ils sont d'accord ou pas. Et avec ce jugement qu'ils feront, ils seront soit sauvés, soit exterminés. Jésus a dit dans Matthieu 12h37 « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Romains 2h13 « Ce n'est mis son pas. En effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » 14 « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. 15 Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend un témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. 16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est Esther la raison pour laquelle, je crois que ce qui a eu lieu dans les jours passés est si important, pour le jugement de Dieu, qui vient contre cette nation. Notre gouvernement a consenti par ses actions d'appeler le bien par le mal acquis et le mal acquis par le bien. Permettre à un homme comme M. Clinton de rester en fonction en étant non coupable, montre que notre nation Néhémie fait plus attention aux lois de Dieu, mais ils font plus attention aux lois des politiques, qui sont des lois des hommes. Et je pense qu'il est ironique que la tête du Sénat puisse avoir un homme du nom de Lot. Par rapport à ses premières paroles après la fin de ce simulacre procès et M. Clinton s'en est allé libre sans même une réprimande sévère. M. Lot avait quand même l'audace de dire, maintenant que ceci est passé, regardons maintenant au futur. Monsieur Lot, Néhémie pensez pas que vos paroles n'ont pas été entendues au ciel, car par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Et étant donné que vous n'avez pas appliqué le jugement qu'il faut, Ainsi, Dieu appliquera le vôtre qui est à venir. Regardez maintenant comment les choses effilent rapidement, parce que la main est en train d'écrire sur la muraille maintenant. Le jugement a été proclamé. Dieu a envoyé son prophète avec un message et ce message a été rejeté. Cette nation sentira bientôt les effets de son rejet de la voix de Dieu. Un prophète confirmé a déjà prononcé le jugement sur elle, et elle sentira bientôt les douleurs du jugement. Et n'est-ce pas ironique que Monsieur Lot conduise le groupe d'hommes qui ont refusé la vérité et ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Et pourquoi ont-ils soutenu cette farce comme étant un procès? Parce qu'ils ont voulu prendre leurs vacances. Ils ont voulu partir de Sodome de Washington. Et comme il en était au jour de qui? N'en sera-t-il pas ainsi au jour où le Fils de l'homme sera révélé? Luc 17h28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. 29 Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Remarquez, il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme sera révélé. C'est-ce si simple que ça? Il vous le dit bien ici, au jour où Lot sera assis à la porte comme juge, un sénateur, ils seront intéressés, non par la vérité, ni par la parole de Dieu, mais leur inquiétude sera sur comment planter et construire. Et pourquoi plantez-vous et construisez-vous? C'est pour le futur. Et en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé et ils seront si concentrés sur les affaires comme d'habitude, qu'ils rejetteront de nouveau la parole, et l'exposeront à l'ignominie. Monsieur Clinton parle de sentir votre douleur, mais c'est le peuple qui portera sa honte. Et Néhémie comprenne même pas que Dieu est dans cet événement. Amos 3, 5 L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris? Si sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? 7 Car le Seigneur, l'Éternel, Néhémie fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 8 Le lion rugit, qui Néhémie sera effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui Néhémie prophétiserait? Quand Dieu vous envoie un prophète, c'est parce que Dieu veut que vous sachiez quelque chose. C'est l'homme que vous devez alors écouter. Et il vous donne un choix. Si vous écoutez, vous êtes sauvé. Si vous n'écoutez pas, vous êtes exterminé. Il ne s'agit pas du tout d'un choix. Mais j'aime de cette façon. C'est un point difficile. Il a dit, voici le chemin. Marchez-y. Esaïe 30, 18 Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. 19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu Néhémie pleureras plus. Il te fera grâce, quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. 20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent Néhémie se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. 21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y. Car vous irez à droite, ou vous irez à gauche. Et habituellement, quand Dieu envoie ses prophètes, il y a deux raisons pour cette venue. 1. Préparer les enfants de Dieu, les apprêter, les avertir premièrement, et puis produire le jugement. avertissement puis jugement. Le prophète Esther est un juge pour apporter premièrement l'avertissement. Ensuite, quand l'avertissement n'Esther pas compris, Dieu retire son prophète et alors envoie le jugement. Le 24 juillet 1963, après que les sceaux aient été ouverts, Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé « Avertissement puis jugement ». Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans d'abord l'avertir au préalable. Avertissement puis jugement 24.07-1963. Mais Dieu n'exerce jamais ses jugements sur la terre sans d'abord prévenir les gens. Dieu n'a émis fait jamais rien sans déclarer premièrement ce qu'il va faire. Et il donne un choix aux gens. Vous pouvez agir bien ou mal acquis. Vous comprenez? Dieu Néhémie pourra jamais changer sa nature. Son programme Néhémie peut jamais changer par rapport à ce qu'il avait commencé à faire, parce qu'il est Esther infini et que son programme et ses idées sont tous parfaits. Et nous avons vu dans le livre de Deutéronome que Dieu a parlé à Moïse et a dit qu'il leur enverrait un prophète et les gens devaient mieux faire attention. Nous trouvons que Pierre parle de la même chose dans les Actes 3h22. Acte 3h22 Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 23 Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Par conséquent, Dieu nous a avertis, « Prenez garde au message que mon prophète vous apporte. Sinon, vous serez exterminés. » La pluie de la première et de l'arrière-saison -3 mars 1960 Phoenix, AS, USA, paragraphe 41 maintenant. Dieu a établi, non pas l'homme, Dieu a établi dans l'Église. Premièrement Esther, ou plutôt les apôtres. Deuxièmement les prophètes, les docteurs, les pasteurs et ainsi de suite. Dieu les établit dans l'Église. Si Dieu les a placés là, c'est Esther qu'ils sont qualifiés pour le travail. Dieu Néhémie mettrait pas sur une tour, à une position comme celle-là un homme qui dit, les jours des miracles sont passés. Dieu Néhémie placera pas dans une position comme celle-là pour être un prophète ou un voyant un homme qui dirait que Jésus-Christ n'Esther pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors que la Bible déclare qu'il l'Esther. Dieu Néhémie placerait pas là dans la tour, un homme qui prêcherait un pauvre évangile, qui Néhémie dirait pas la vérité et qui n'avertirait pas les gens de la colère qui Esther à venir. 42 Il mettrait là un homme qui serait courageux, qui aurait le, un esprit qui voit le jugement, qui est proche et qui sans tenir compte de ce que disent les gens, les avertirait de toute façon. Il criera contre cela. Il n'émit place pas des prophètes aveugles dans sa tour. Il place des prophètes, des prédicateurs qui voient en avance le jugement, qui approchent et avertissent les gens pour fuir. Avertissement puis jugement 24.07-1963. Paragraphe 108 Le prophète Esther un homme spécial. Le prophète Esther un homme à qui vient la parole de Dieu car le prophète Esther ainsi fait dans sa vie, que son subconscient et son état conscient sont si proches qu'il n'a pas besoin de dormir pour avoir des songes. Il les voit quand il est Esther tout à fait éveillé. Vous voyez? C'est Esther quelque chose que Dieu doit faire. Le prophète voit ce qui va arriver. Paragraphe 109 Un prophète voit longtemps à l'avance ce qui va se passer. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie. Vous comprenez? Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous n'aimez vous repentez pas. Pourquoi? Parce qu'il est Esther un aigle. Il voyage dans l'au-delà et voit cette coupe de la colère qui se répand. C'est Esther ce que le prophète regarde. Il n'aimé regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au-delà. Il dit cela vient. Il se lève si haut qu'il voit cette ombre. Il dit, le monde va être envahi par des pestes ténèbres. Il est assez haut. Pour le moment le soleil brille, mais il voit cette ombre avancer et il annonce ce qu'il voit. Ce n'est pas encore là, mais ce sera bientôt là. C'est vrai. Il va venir des pestes ténèbres sur le peuple. Il sait que cela va venir même s'il y a encore des années jusque-là. Mais il le voit. L'âge de l'église de la Odyssée, E1.1.2.960, Jeffersonville, In, USA, paragraphe 66 maintenant. Faites bien attention, je reviens à Malachi 4. Rappelez-vous qu'il dit ici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Assemblée répond, de l'Éternel. C'est un des accents aigus. De l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Paragraphe 67. Où trouverons-nous le jour de l'Éternel? À la fin de l'âge. C'est lorsque le monde sera consumé. Vous vous rappelez que nous avons étudié cela? Cette perruque de cheveux blancs et cette ceinture sur ses poitrines. Vous en souvenez-vous? Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour de sabbat, ni un dimanche. C'était le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est le jour où il vient en tant que juge, et frappera la terre de malédiction. N'est-ce pas? Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, remarquez, c'est le juge qui vient frapper la terre de malédiction. Par conséquent, il doit être présent pour le faire. Il doit être ici pour frapper la terre de malédiction. Et de quelle malédiction parlons-nous? La malédiction que Dieu a prononcée sur ceux qui n'écouteront pas sa voix. Deutéronome 28. La puissance de la décision 061. Remarquez, ce n'était pas la verge de Moïse qui était la verge du jugement de Dieu. C'est ce avec quoi il a apporté les jugements sur l'Égypte. Il a apporté le jugement. Et remarquez, c'était une verge du jugement qui a frappé le rocher. Et c'était les jugements de Dieu, le jour où vous en mangerez, ce jour-là vous mourrez qui frappa Christ. La mort a frappé Christ, le jugement de Dieu, et a apporté la vie aux gens mourants. Que c'est beau. Néhémie l'oubliez pas. La puissance de la décision. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea et Kadesh Barnea. Une fois c'était le siège du jugement du monde. L'endroit était bien grand. De grandes sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui sortaient de là, un bosquet du palmier comme cela dans le désert. Quel bel endroit. Un type, le grand siège du jugement de Dieu, dans le ciel où la parole de Dieu est, un livre de la loi et il y a le jugement au trône blanc du ciel. Et chaque petite source a représenté une église où les jugements de Dieu allaient de l'avant, prêchant le jugement. Le départ secret et soudain de l'église, mois 12 octobre 1958, Jeffersonville, In, USA, paragraphe 81. Ce dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs à l'ancienne mode envoyés de Dieu, nés du ciel, qui diront les vérités sans regarder qui ça blesse. C'est comme Jean qui disait, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui n'est mis, porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans cette condition méchante où nous vivons, nous avons besoin de tels prédicateurs, de tels prophètes, qui bombarderont et utiliseront les jugements de Dieu comme munitions, pour mettre cela en pièces. Paragraphe 82. Vous Néhémie, pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur le dos. Vous Néhémie pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de l'instruction aux gens. Nos programmes sont par terre et ont échoué. Il n'y a qu'un seul remède contre le péché. Et c'est Christ qui est ce remède. Et ce n'est pas Christ au travers d'une confession intellectuelle, mais au travers du baptême du Saint-Esprit, pour une nouvelle vie et une régénération. C'est-à-dire cela l'unique remède contre le péché, l'unique remède pour une nation. C'est-à-dire l'unique remède pour une église. C'est-à-dire l'unique remède pour les gens. Maintenant, nous savons que le prophète vient avec la parole du Seigneur. Mais nous devrions savoir maintenant qu'il apporte aussi la verge du jugement de Dieu avec lui. Même dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons que Dieu envoie sept anges, qui sont des messagers avec sept messages. Chacun avait une trompette à sonner pour déclarer un message. Une trompette de l'évangile Esther sonnait pour déclarer un message. Le 1er saut 18 mars 1963 Jeffersonville, in, USA, paragraphe 63 Remarquez ce qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce ce qui se passe? Un saut est ouvert. Qu'est-ce ce que c'est-ce? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Voyez? Paragraphe 64 Cette guerre? Qu'est-ce ce que c'est-ce? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est-ce pas encore pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce ce qu'il fait, là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Un homme qui peut allumer la lumière 29.12-63 et me voyez, sous le sixième sceau, toutes les sept trompettes ont bien sonné là sous le sixième sceau, voyez? Juste avant que le septième sceau ouvre la venue de Christ. Expose des sept âges de l'Église, introduction, le présent volume, même s'il traîne de plusieurs doctrines importantes, telles que la divinité, le baptême d'eau, etc., dont il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des sept âges de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse, car des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les coupes. Tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine, les âges de l'Église produisent une puissante illumination initiale, sans laquelle il n'est mis, pourrait y avoir d'autres feux. L'imitation du christianisme, M20.01.957 Jeffersonville, in, USA, paragraphe 57 Et maintenant, un don de connaissance, dans la Bible, c'est-à-dire de la prophétie, par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver, et on redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible, avec le livre. Si elles n'est mis sont pas dans le livre, alors elles n'est mis sont pas acceptées, parce que le juge, juge d'après le livre. Vous le voyez? Donc, ce doit être selon la parole. Paragraphe 58 Et puis, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Ce n'est-ce pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. C'est-ce que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit, car la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole, et elle repose là, répartie dans le temps. Alors le prophète monte, et il voit le temps à venir. Donc, il s'agit seulement d'un don de connaissance. Il redescend l'annoncer, et il le met sur papier. La porte du cœur 02.03-58-042 écoute l'Amérique. Je dis ceci, pas aux individus, mais à toute l'Amérique. Votre heure de jugement est proche. Vous êtes sûr que cette nation sera jugée par Dieu? Si ce n'est pas ainsi, je suis un faux prophète et un menteur à la chair. Surveillez simplement ça. Cela arrive. Notez-le dans vos livres. Vous direz, frère Branham l'a dit, au nom du Seigneur. Et vous allez voir qu'il va être juste ainsi, parce que la Bible de Dieu l'a dit. L'autre jour, je vous ai fait cette déclaration, j'ai dit, si Dieu ne juge pas cette nation pour ses péchés, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser pour les avoir fait couler. Certainement. Dieu sera obligé. Il est juste, et il est honnête, et il est vrai, et ses jugements sont vrais. Et Dieu n'a d'égard pour personne. Et nous avons été pesés dans les balances et avons été trouvés légers. J'ai voulu prêcher sur cela cette semaine, mais cette juste tirée à la semaine n'a pas été assez longue sur, pesée dans la balance et ensuite, l'écriture sur la muraille. Nous sommes au temps de la fin et nos yeux sont aveuglés à ça. L'Église passera-t-elle par la tribulation? 09.03-58 Lotester descendu et devint le maire de la ville. Et il était un grand homme parmi le péché. J'aimerais plutôt Néhémie pas être très populaire et être correct avec Dieu. Mais Lot était très populaire. Et il s'était assis dans les rues à la porte de la ville. Il était juge de ce qui pouvait entrer et de ce qui Néhémie pouvait pas entrer. Et il était là, donnant sa vie dans la fornication, et tout en sachant que dans sa ville de telles choses se passaient. Si ce n'est pas une image d'aujourd'hui et de notre nation, les programmes non censurés, tous ces genres de folie, de mesquinerie, de vice. Oh, ils pouvaient briser ça s'ils le voulaient. Mais Néhémie ne le veulent pas. Et Néhémie ne peuvent pas le faire. Parce que Dieu a dit que ce serait ainsi. S'ils pouvaient seulement ouvrir leurs yeux et comprendre. Vision de Patmos, E04.2.960, Jeffersonville, In, USA, paragraphe 168. Croyez-vous qu'il est faire juge? Lisons rapidement Jean 5.22. Nous verrons si Lester juge ou non, le père Néhémie juge personne, mais il a remis tout jugement au fils. Paragraphe 169 Lester juge, le juge suprême. Et Lester décrit par Jean comme n'étant pas dans les jours de sa prophétie en tant que prophète, ni dans les jours de sa royauté, mais dans le jour du Seigneur, en tant que juge. Combien savent que lorsque le sacrificateur porta sa ceinture, son cordon autour de la taille, cela signifiait qu'il était dans le service? Quiconque lit l'Ancien Testament, et le connaît, sait cela. Quand un sacrificateur porte sa ceinture ici, il est dans le service, il est serviteur. Mais lui, maintenant, porta sa ceinture là. En tant que juge. Paragraphe 170. Lisons un peu plus loin. Une ceinture d'or sur la poitrine. Paragraphe 171. C'est exact. Quand il porta sa ceinture ici, il était le juge. Le signe, M01.09.963 Jeffersonville. In. USA. Paragraphe 188 remarqué. Les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu était sur le point d'exercer son jugement sur l'Égypte, il a premièrement fait des préparatifs. Qu'a-t-il fait, la première fois? Il n'aime et change jamais sa manière de procéder. Paragraphe 189 La première fois, quand il a fait ses préparatifs, il a envoyé un prophète muni d'un message. La première chose qu'il a faite pour son peuple a été d'envoyer un prophète muni d'un message. Paragraphe 190. Ce qu'il fait ensuite. Pour identifier ce prophète, s'est-ce qu'il a envoyé une colonne de feu en guise d'identification? Pour l'identifier. Paragraphe 191. Et la troisième chose qu'il a envoyée, le signe. C'est-ce tout à fait juste. Le signe. Que signifiait le signe? L'assurance. Paragraphe 192. Premièrement, son prophète muni d'un message. Il s'est-il identifié lui-même au milieu de, au moyen d'une colonne de feu, avec son prophète. Ensuite, il a envoyé un signe, il fallait se placer sous ce sang, qui montrait qu'il avait accepté la mort de ce substitut, à votre place. Alors, le sang était un signe qu'il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru à la colonne de feu, et que vous aviez accepté le substitut qu'il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh! Combien parfait! Combien parfait! Voyez-vous, vous êtes sous le sang. Paragraphe 193. Maintenant vous êtes sous l'esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous croyez le message du jour? Voyez-vous? Vous croyez à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez cela? Voyez-vous? Vous croyez. Paragraphe 194. Maintenant, regardez, y croire simplement, ce n'est pas suffisant. N'aimez pas. Circulez où cela se trouve. Ce n'est pas suffisant. Voyez-vous? Cela n'aimez fera que vous rendre pire. Car celui qui sait faire ce qui est bien. Et qui n'aimez le fait pas. Comme un péché. Voyez-vous? Ce sont ces croyants frontaliers. Jésus n'a aussi parlé. Paragraphe 195 Hébreux. Chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang, par lequel ils ont été sanctifiés. Ce sont les composants chimiques qui sanctifient. Ce n'est pas le signe. Maintenant, le sang n'est pas le signe. La vie est le signe. Paragraphe 196. La vie Néhémie pouvait pas se trouver là, puisqu'il s'agissait d'un animal. Les composants chimiques étaient le signe, il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute. Nous allons le prouver. Voyez-vous. C'est la vie qui est le signe. Paragraphe 197. Votre vie s'en est allée. Et vous êtes mort. Votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu. Par Christ. Et scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ. Et la Bible, et la parole, sont une seule et même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors vous, et la parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. Et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voyez-vous? C'est Grace Fellowship Tabernacle, juin 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com ou en français à bitxiset@yahoo.fr.